Quand j'ai su que je devais prêcher aujourd'hui, je me suis dit, oh là là, j'avais quelque chose en tête, puis non, c'était pas ça. Et par contre, dans ma tête, pendant toute la semaine, il y a des mots qui ont tourné dans ma tête. C'était, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Je me dis, oh, pourquoi ça tourne dans ma tête, ce verset, je faisais la cuisine et pense, ce verset revenait, et puis... Partout où j'allais, ce verset restait dans ma tête. Et à la fin, je me suis dit, bon, je vais quand même regarder de plus près ce texte et on va le regarder ensemble ce matin. Il y a une autre chose aussi qui m'a beaucoup parlé. C'était à la fin de nos vacances, on a déjà évoqué. On a rencontré un couple qui était, on a passé une journée avec eux, qui était dans l'église autrefois. Et j'étais émerveillée par leur vie chrétienne, par la façon dont ils donnaient leur temps, leur énergie, leur aide. J'étais émerveillée par leur joie et puis les choses formidables qu'ils nous ont racontées, qu'ils avaient vécues, et encore ça, et encore ça, et encore ça. Et je me dis, oh là là, mais Dieu fait des choses extraordinaires, si on veut bien, si on veut bien se mettre à sa disposition. Et c'est un petit peu ce qu'on va voir ce matin dans ce texte. Et puis là, cette semaine, mardi, ma sœur a insisté, parce que c'était son anniversaire, on est allé la voir, et elle a insisté pour que je rende visite à des vieux amis de mes parents qui ont aujourd'hui 96 ans. Je ne sais pas, elle doit avoir un petit peu moins, mais pas beaucoup. Et c'est des gens que j'ai connus depuis que je suis toute petite. Et j'ai été là aussi énormément édifiée par leur joie. Je connais leur parcours et je sais ce qu'ils ont vécu, les trahisons, les méchancetés qu'ils ont supportées de différentes origines, et voir leur esprit de pardon et leur joie, ça m'a beaucoup frappée. Et parce qu'en fait, avec leurs moyens très réduits, à cet âge-là, ils ne sortent plus beaucoup de chez eux, ils sont au service de Dieu et tous les gens qui viennent leur rendre visite pour leur faire plaisir, en fait, on ressort édifié parce qu'ils rayonnent de la joie du Seigneur. Ils savent qu'ils vont bientôt rencontrer leur Seigneur, mais ils sont reconnaissants pour chaque jour que Dieu leur accorde. Reconnaissants pour même des tas de petites choses. Un esprit de joie, un esprit de paix, un esprit de pardon, un esprit de reconnaissance. En fait, c'est vraiment ce que j'ai ressenti avec André, c'est ce qu'on a ressenti. Et ça nous a fait beaucoup de bien. Parce que je connais leur parcours, ils ont passé par des moments très difficiles. Et les voir dans une telle joie, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu. Aucun psychiatre n'arrivera, ou psychologue n'arrivera à faire ça avec des gens qui ont beaucoup, beaucoup souffert. Donc, voilà. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. On va lire le texte. Donc, c'est dans Actes, chapitre 3, je n'ai pas mis le chapitre ici, et versets 1 à 21. Voilà. Ah, donc ça, on va commencer. Non, c'est bon. On va revenir un tout petit peu en arrière avec Actes, chapitre 1, verset 21. Donc, Actes, chapitre 1, 21, verse 21. Oui, je voulais lire à partir de 1 à 21. Donc ça va se suivre là? Oui, ah, c'est 1 à 21. Donc c'est pas grave, je vais le lire. J'ai maintenant un téléphone portable, mais je ne suis pas encore à l'aise avec ce genre de choses. J'ai fait des progrès, mais c'est pas encore ça. Donc voilà. On va commencer en fait au verset 12 pour resituer notre texte. Les disciples retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Là encore, avec les jeunes, on disait à quel point Luc pouvait être précis, mais vous voyez, c'est On voit bien qui a écrit les Actes des Apôtres, là, toujours dans la précision. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. En ce temps-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120, et il dit « Homme frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas. » Et ils vont régler le problème du disciple manquant, donc on va passer au verset 21. « Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur nous a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui soit associé comme témoin de sa résurrection. » Bon, ils choisissent finalement Matthias. Et je suis un petit peu perdue dans le texte. C'était le premier discours de Pierre. Et c'est important de voir Pierre un petit peu dans cette période-là. Il a organisé les choses. Et il a fait élire le disciple qui manquait, puisque Judas avait trahi. Et il prend les choses en main. Et on va lire ce qui se passe un petit peu après, c'est-à-dire acte 3. On reviendra en arrière, on va faire un petit peu des allers-retours. Hein. C'est parce que c'est important de voir le parcours de Pierre. Donc acte 3. Verset 1. Donc, voyez, il prend les choses en main, il va se passer plusieurs choses, mais on va revenir dessus après. Et là, il sort pour aller au temple. Alors, c'est important de se rappeler qu'à cette époque-là, c'est-à-dire au début des actes, les chrétiens n'étaient pas séparés des juifs. Ils continuaient à aller au temple. Ils continuaient à vivre leur vie de juifs pratiquants. Mais en plus, ils avaient trouvé leur Messie. Ils étaient convaincus hein, que Jésus était leur Messie. Mais ils n'avaient pas l'idée de faire une scission, ils n'avaient pas l'idée de se séparer des Juifs. Hein, c'est évident, donc là, ben, ils vont au temple, Pierre et Jean. Donc, acte 3. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Vous voyez, ils allaient prier au temple. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Et là, c'est incroyable la réaction de Pierre. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or. » Tu étais un pêcheur de poissons. Pensez bien, il vivait juste de la vente de ses poissons, j'imagine, comme tous les pêcheurs. Et donc c'était juste. « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. » Et c'est qu'est-ce qu'il avait ?« Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Qu'est-ce qui s'est passé chez Pierre ? Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Oui, parce que là, il fallait deux miracles. Hein. Ce n'était pas seulement le fait de marcher, mais tous les gens qui ont été malades pendant de longues périodes savent très bien que c'est difficile de remarcher après. Alors, vous pensez quelqu'un qui n'a jamais marché ? Il y avait deux miracles là. Hein. Et ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout. Il se mit à marcher, il est devenu fou hein, de joie. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Oh, ça ne se fait pas dans un temple quand même. Hein. Mais là, il ne pouvait plus se tenir, le pauvre homme. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Là, on ne pouvait pas discuter. Hein. Souvent, quand il y a des miracles, hein, les gens discutent. « Oh ben oui, ce serait peut-être arrivé de toute façon, et ceci et cela. » Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple, étonné, accourut vers eux, au portique dit de Salomon. Et là, Pierre va reprendre la parole. On va voir tout à l'heure ses discours, mais là, il dit, Voyant cela, il dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme. » Ah, ça c'est important. La tendance naturelle de l'homme, quand il y a un miracle, c'est de regarder à celui qui a prié, au lieu de regarder au Seigneur. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de déceptions, c'est comme ça qu'il y a beaucoup de choses qui foirent. C'est Dieu qui guérit. Et vraiment, là, je trouve Pierre a été formidable. Il ne s'est même pas enthousiasmé. Alors rappelez-vous, les disciples, hein, quand Jésus les avait envoyés, « Waouh, les démons même, nous sommes soumis !» Et Jésus qui dit « Réjouissez-vous que vos noms soient inscrits dans le livre de vie. » Et bien là, il n'a pas cette réaction. Il s'est passé quelque chose. Pourquoi vous nous regardez comme si c'était notre propre puissance ou notre piété? Et je ne me souvenais pas de ce verset. Notre piété. Oh, cette personne, c'est vraiment un homme de Dieu parce que, voilà, il prie, parce qu'il jeûne, parce que, etc. Alors quand il prie pour les gens guérissent. Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâchât. Vous avez renié le saint et le juste, vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Là, il y va fort, hein ? Parce que, quoi, c'était quelques jours, quelques dizaines de jours avant, Jésus a été crucifié. Le peuple a crié « Crucifie !» Enfin, ils étaient payés pour ça. Les soldats romains étaient là, certainement qu'il y avait des sadducéens dans le coin, hein, c'est ceux qui étaient les plus violents, et les pharisiens. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Il avait du courage. Hein. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Ah. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. Là, il est clair. C'est par la foi en son nom. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance ainsi que vos chefs, mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, etc. Et il dit, repentez-vous, convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus. Bon, il va continuer beaucoup plus longtemps, mais je voulais m'attarder sur ces versets. Parce que ce n'est pas forcément le Pierre qu'on a connu dans les épisodes précédents. Et il y a un verset qui m'a attiré l'attention aussi, je crois que c'est un petit peu plus loin, où il est dit, il reconnaissait que ces hommes avaient été avec Jésus. Je crois que c'est 4, verset 1 à 13. Je ne sais pas si tu l'as, le 4, 1 à 13. Voilà. Parce qu'après, évidemment, ils vont avoir des ennuis, ils vont être arrêtés. Et tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, c'est un petit peu après ça, le commandant du temple et les sadducéens. Vous avez tout le monde sur le dos là. Mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts, parce que les sadducéens ne croyaient pas à la résurrection des morts. Alors les sadducéens, c'était en quelque sorte l'aristocratie religieuse de l'époque. Les pharisiens, c'était ceux qui cherchaient à plaire à Dieu à tout prix, à être purs à tout prix, etc. Mais ils croyaient à la résurrection, tandis que les sadducéens, c'était la classe au-dessus, et ils refusaient de croire à la résurrection. Donc ils mirent les mains sur eux, ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Alors, vous voyez, ils ont guéri un homme impotent, incurable, et on les met en prison. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent et le nombre des hommes s'éleva environ à 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem. Avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jésus est passé devant Caïphe, hein, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent « Par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela ?» Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, et ça c'est important, c'est pas juste un petit mot. Pierre était rempli de l'Esprit de Dieu. Et il leur dit, chef du peuple et anciens d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ça, c'est un verset important, parce que j'ai parfois entendu des chrétiens dire « Oh, mais il y a d'autres chemins, il y a d'autres façons de s'approcher de Dieu, d'autres religions, etc. » Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Alors, ça peut sembler un peu carré, mais rassurez-vous, c'est Dieu qui décide, ce n'est pas les hommes. Et on ne sait pas ce qui se passe dans le cœur de quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Jésus au dernier moment de sa vie. Donc, on laisse ça entre les mains de Dieu. Les choses cachées sont à l'Éternel. Hein, Dieu est un Dieu juste, dont moi je lui fais confiance pour ces gens-là. Mais pour ceux qui ont entendu et qui ont choisi, il n'y a pas d'autre nom que le nom de Jésus. Voilà, que ce soit clair, Dieu est un Dieu juste, mais voilà. Et puis, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Waouh ! Les Sadducéens étaient des gens extrêmement instruits, les pharisiens connaissaient toute la première partie de la Bible par cœur. Par cœur, hein, à partir de 12 ans. Et ces gens sans instruction, ça veut dire que peut-être ils ne connaissaient pas l'Ancien Testament par cœur. Et lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Et j'aime beaucoup ce verset. Ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Et je me suis posé la question, est-ce que nous, chrétiens, les gens autour de nous peuvent dire « Je reconnais qu'ils ont été avec Jésus. » J'aimerais qu'ils puissent le reconnaître, mais ce n'est pas évident. Hein, et je me mets dedans. Hein. Et pourtant, c'était ça qui était important. Ils ont reconnu que ces gens avaient été avec Jésus. Je ne sais pas si j'ai continué plus loin, oui. Non, je crois que c'est 13. Ils reconnaissaient en eux ceux qui étaient avec Jésus. Alors, maintenant, moi, j'ai quand même été choquée, parce que vous savez, on parle toujours de Pierre dans les prédications. Pierre, la grande bouche, Pierre qui dit toujours n'importe quoi, Pierre qui s'avance et puis qui se fait réprimander par Jésus, Pierre ceci, Pierre cela, Pierre qui renie Jésus. Pierre qui... Voilà, on va voir un petit peu tout ce qu'il a fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé chez Pierre pour qu'il se comporte comme ça? Qu'il ose faire face au meurtrier de Jésus alors que quelques temps avant, il avait la trouille d'une servante dans la cour du temple, de la cour du sacrificateur. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quel changement? Alors, on va regarder un petit peu la vie de Pierre. C'est en Galilée, près du lac, que Jésus va appeler Pierre. Il est en train de pêcher du poisson. Donc c'est Matthieu 4, 19, je ne sais pas si je l'ai noté. Et il avait dit à cette occasion, « Suivez-moi, » à Pierre et je crois que c'était André, « et je vous ferai pêcheur d'hommes. » Ça, c'était le projet, c'était la vision de Jésus pour Pierre. Pour l'instant, il était en train de pêcher du poisson. Il avait été disciple de Jean, Jean-Baptiste, mais c'est tout. C'est à ce même Pierre qui, avec les autres disciples, demande à Jésus de renvoyer la foule, que Jésus va répondre, « Donnez-leur vous-même à manger. » Et là, ils sont perdus. « Mais Seigneur, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. » Non, mais enfin, réfléchis, quoi, c'est pas possible. Voilà dans quel esprit il était. C'était pas « Ce que j'ai, je te le donne. » C'est « Renvoie la foule, on peut rien leur donner. » Ah, il a fait du chemin, Pierre, hein, en 3 ans. Ce même Pierre qui va affirmer avec force un jour, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Mais aussi ce même Pierre qui va refuser le sacrifice de Jésus. « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas !» Matthieu 16, 13. Et c'est à Pierre que Jésus va répondre fermement, « Arrière de moi, Satan, car tu mets en scandale. Et j'avais oublié aussi cette partie du verset. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Donc on a un Pierre, pêcheur de poissons, dynamique, extroverti, qui dit tout ce qui lui passe par la tête. Mais Jésus lui dit, le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais c'est celles des hommes. Et on se sent tellement proche de Pierre, je ne sais pas vous, mais nos pensées, combien de fois nos pensées ne sont pas celles de Dieu? On construit des trucs dans notre tête, mais nos pensées ne sont pas celles de Dieu. C'est à Pierre que Jésus répond fermement, « Arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu. » Pierre ne voit absolument pas le plan de Dieu pour l'humanité. C'est humainement normal de ne pas vouloir que son ami meure. Enfin, mort, mettez-vous à la place de Pierre. Votre meilleur ami, vous avez marché avec lui pendant à peu près 2 ans, quand ça a été dit, ça, 2 ans et demi peut-être. On n'a pas envie, il annonce qu'il va, il va être crucifié. Ah non, non ! Hein, on aurait tous, je pense qu'on aurait tous dit ça. Hein. C'est pour ça qu'on est proche de Pierre, finalement. Hein. On pense comme lui, mais nos pensées, ben, sont celles des hommes. Et c'est toujours ce même Pierre qui, sur la montagne de la Transfiguration, vous savez, quand Jésus est allé prier, il a emmené 2 disciples, hein, Pierre et Jean, je crois, ou Pierre, Jacques et Jean, 3. Et ils sont montés sur la montagne, et Jésus a prié. Et là, ils ont eu une vision extraordinaire. Ils ont vu Jésus parler avec Moïse et avec Élie. C'était fou. C'était... Et là, Pierre, il est fou. Oh là là, c'est extraordinaire, Seigneur. Il est bon que nous soyons ici. Ben, évidemment, il y avait la présence de Dieu. C'était un peu du ciel sur la terre. Il est bon qu'on soit ici, si tu le veux. Je dresserai 3 tentes. Tout de suite, hein, faire des choses. Alors, il pense comme les hommes et il agit aussi comme les hommes. C'est bon que nous soyons ici. On va mettre une tente pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. C'est Matthieu 17. Mais par contre, d'un seul coup, il entend la voix de Dieu et là, il va tomber face contre terre. Parce que Dieu fait entendre sa voix. Voyez, parler, agir comme un homme. Mais ce même Pierre qui est si sûr de lui, il va affirmer, quand Jésus dit qu'il va être crucifié et que certains vont le renier, il dit, quand tu serais pour nous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Oh, il est sûr de lui, Pierre. C'est pas un petit rigolo. Vous savez, je disais aux jeunes la semaine dernière, souvent les chrétiens ont dit, oh, bon, les gens du monde disent, oh, les chrétiens, c'est des gens fragiles, il leur faut une béquille. C'est pour ça qu'ils sont chrétiens. S'ils étaient solides, ils n'auraient pas besoin de croire en Dieu, hein, voyons. Eh bien, Pierre, c'était pas un gars fragile non plus, hein. Sûr de lui. Tu ne le seras jamais pour moi. Bon, je ne te renierai jamais. Jésus va lui répondre, je te le dis en vérité, cette nuit, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Quand même. C'est Matthieu 26, mais je ne sais pas si je l'ai noté. Il y avait tellement de textes. Mais lui, il maintient, hein. Il répond à Jésus. Mais du culot quand même. Il répond à Jésus. Vous savez, à l'époque, quand même, le maître qui enseignait les disciples, on ne répondait pas comme ça. Mais lui, alors, extroverti, hein. Et il dit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Il est sûr de lui. C'est un homme solide. Ce n'est pas un gars fragile qui a besoin d'une béquille, hein, Pierre. Du tout. Ce même Pierre va être choisi, et ça, je ne m'en rappelais pas non plus, ce même Pierre va être choisi par Jésus avec Jacques et Jean pour l'accompagner dans la prière et veiller avec lui avant son arrestation. Jésus savait que dans quelques heures, il allait être arrêté par les Romains, les Juifs, les soldats romains. Et évidemment, dans l'angoisse de devoir être crucifié, il savait ce qui l'attendait. Il donnait sa vie librement. Mais c'est là qu'on voit qu'il était parfaitement homme, hein, Jésus. Mais il était angoissé. Il n'est pas allé à la mort comme ça, ouais. Il était angoissé comme nous on le serait. La Bible dit que même sa sueur devenait comme des grumeaux de sang. Et j'ai lu, un médecin a écrit que c'était une chose possible avec une angoisse épouvantable. Porter les péchés de l'humanité, être puni pour des gens coupables, lui innocent, enfin, c'était une horreur. Donc il avait besoin de ce temps de prière. Et il demande à ses 3 disciples les plus proches, Pierre, Jacques et Jean, de l'accompagner. C'était eux qui étaient sur la montagne de la transfiguration aussi. Hein. Et il leur demande de veiller. Mais qu'est-ce qu'il fait, notre Pierre ? Bon, il est fatigué, c'est la nuit, il s'endort. Et les autres aussi, ils s'endorment. Et trois fois de suite, Jésus va revenir vers eux. Et à la fin, il va dire, vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi. Pierre n'était pas capable de veiller une heure à côté de Jésus pendant ce temps de souffrance. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie pour qu'il puisse dire, ce que j'ai, je te le donne. Est-ce que nous, on n'est pas un peu comme ça ? Prier une heure ? C'est pas toujours facile, hein ? Prier une heure. Et pourtant, ce même Pierre, on va le retrouver dans la cour du souverain sacrificateur. Il est envahi par la peur. Jésus a été arrêté. Ils l'ont emmené. Il est jugé, en quelque sorte, par les sacrificateurs. Et puis, il y a une servante qui vient et qui dit, « Ah, mais dis donc, toi, tu étais avec eux ?» Et là, il dit, « Femme, je ne le connais pas. » Et puis, il y a un homme aussi qui dit, « Mais dis donc, toi, tu es galiléen aussi. Et... » Homme, je n'en suis pas. Et la troisième fois, homme, je ne sais pas ce que tu dis. Et le coq a chanté. Aïe, aïe, aïe. Pierre, comment ça se fait qu'il a eu si peur? Il savait ce qui attendait Jésus. Vous savez, les Romains, ils étaient malins. Ils étaient très durs. Et quand ils faisaient des crucifixions, ils s'arrangeaient pour mettre souvent les croix au carrefour, là où, tout le monde passait. Et tout le monde en passant voyait les suppliciés agoniser, crier. En attendant qu'ils meurent, ça prenait des heures. C'était horrible. Et l'idée, c'était de terroriser les populations pour qu'ils obéissent aux Romains. Donc tous ceux qui s'étaient révoltés contre les Romains, tous ceux qui avaient fait du terrorisme, etc. Allez hop, crucifixion, et quelquefois pour des choses moins graves. Donc il y avait de quoi avoir peur. Pierre était terrorisé. Et c'est ce même Pierre qui, juste quelques minutes après avoir renié Jésus, va croiser son regard. Et ça, c'est un moment qui doit être terrible. Jésus traverse la cour et il se retourne, la Bible dit qu'il se retourne et il croise le regard de Pierre. Et qu'est-ce qui se passe ? Bah, le Pierre, solide, extroverti, il sort. La Bible dit, il sort et il pleure amèrement. Ce même Pierre, après avoir entendu le témoignage des femmes, trois jours après, il court au tombeau avec Jean pour constater par lui-même que le tombeau est vide. Oh, bon, les bonnes femmes, hein. Ça me rappelle, quand je faisais la culture biblique à l'école Notre-Dame, j'ai toujours une façon de parler un petit peu familière. Et j'avais dit, y a des gens... Ah, ils vont dire, la résurrection de Jésus, c'est une histoire de bonnes femmes, puisque c'était des femmes qui avaient découvert Jésus. Et on a eu un petit moment de prière, ça arrivait parfois. C'était CE2 ou CM1, je ne me souviens plus. Et j'ai trop aimé, c'était le fils d'un prof qui était dans ma classe. Et je crois qu'ils n'étaient pas croyants. Et il prie et il dit, merci mon Dieu, parce que la résurrection, ce n'est pas une histoire de bonnes femmes. Je me suis dit, oh là là. Bon. Oui, mais il avait compris en tout cas. Et lui, Pierre, justement, il se disait peut-être que c'était une histoire de bonne femme. Ils sont un peu illuminés, les femmes. Bon. Et il court au tombeau pour constater que le tombeau est vide. Mais pour Pierre, qui ne comprenait pas la nécessité de la mort de Jésus, ça a été un choc quand il a vu en face de lui Jésus ressuscité. Jésus s'est donné la peine de le rencontrer. C'est Jésus qui est allé vers lui. Et trois fois, Jésus va lui poser la question. Alors là, moi, je trouve que Jésus est vraiment bon parce que moi, à la place de Jésus, j'aurais dit, « Bon, dis donc, comment ça se fait que tu m'as renié comme ça, devant une petite servante, devant juste un bonhomme là qui se réchauffait auprès du feu explique-moi. » Jésus pose la vraie question. La question de fond. Et c'est toujours comme ça avec Jésus. M'aimes-tu ? Parce que le problème, il est là. M'aimes-tu suffisamment ? M'aimes-tu ? Et il va poser trois fois la question. Et là, on voit que Pierre a commencé à changer. Il s'est passé quelque chose. D'abord, il dit « Oui, oui, je t'aime. » Puis à la fin, il dit « Tu sais que je t'aime. Je ne peux pas faire plus, je ne peux pas faire mieux. Tu sais, tu connais mon cœur, autrement dit. » Oh là, il est moins virulent. Hein. Pierre n'est plus tout à fait le même homme après la résurrection. Avec les autres disciples, il va être celui qui obéit aux ordres de Jésus et qui attend avec les autres à Jérusalem le Saint-Esprit que Jésus avait promis. Et là, je voudrais juste relire Acte 1, versets 9 à 14. Acte 1, 9 à 14. Voilà. Jésus parle à ses disciples au moment de l'ascension. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient. Une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Et quand ils furent arrivés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, et voilà, on va retrouver tous les noms des disciples. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Entre parenthèses, encore une fois, où on voit les frères de Jésus. Jésus avait des frères. Jacques, l'apôtre Jacques, était un des frères de Jésus. Et là, ils persévèrent dans la prière, mais combien d'heures ils ont prié? Certainement plus que ce que Jésus avait demandé, hein, avant son arrestation. Il s'est passé quelque chose. Ils ont vu Jésus ressuscité. Et je le dis tous les ans et je le répéterai toujours, si la résurrection n'était pas vraie, vous croyez qu'ils auraient fait ça? Si ce n'était pas vrai que Jésus était ressuscité, vous croyez que sur les 12 disciples, il y en a 11 qui ont été tués pour leur foi dans le Jésus ressuscité? Alors un fou peut-être, deux illuminés peut-être, mais 11 fous, ça fait beaucoup. S'ils n'avaient pas vu Jésus ressuscité de leurs yeux, ils ne se seraient pas fait tuer pour lui. Pour moi, c'est une des preuves les plus importantes de la résurrection. On n'est pas fou à ce point-là de se faire tuer pour quelqu'un qu'on a enterré au fond de son jardin. Hein. Je crois que là, c'est une des meilleures preuves de la résurrection de Jésus. Pierre n'est plus du tout le même homme. Il obéit et il attend avec les autres, et il prie. Donc on a aussi Acte 2, versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, on revient un petit peu en arrière, hein. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ah, là, il s'est passé quelque chose. Donc, on a vu l'arrestation de Jésus, sa crucifixion, sa résurrection. Et Jésus leur a dit, attendez, attendez à Jérusalem que je vous envoie l'Esprit. Et là, il se passe quelque chose. L'Esprit de Dieu descend sur eux, sous forme de flamme, etc. Mais ils parlent en d'autres langues. Ce qui fait que les gens autour, on est 120 personnes qui parlent fort, ça s'entend, il n'y avait pas de fenêtre à double vitrage, et certainement que tout était ouvert. Et les gens dans la rue ont dit... Alors il y en a qui ont dit ils sont fous, ils sont ivres, mais il y en a beaucoup qui ont compris, parce qu'en parlant en langue, ils parlaient des merveilles de Dieu. Et ça, pour des gens ivres, ça aurait été problématique. Et là, ce jour-là, on voit que Pierre, qui avait eu peur d'une simple servante et d'un homme qui était là près du feu, il va avoir un courage et une audace incroyables. Il y a eu la résurrection et la Pentecôte. Le Saint-Esprit a tellement animé Pierre, il a reçu ce jour-là quelque chose qu'il peut donner. Il annonce avec force la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, l'accomplissement des prophéties, le Messie d'Israël qui devait venir. Je pense qu'on va lire le verset Acte 2, 22 à 24. Voilà, homme israélite. Il prend la parole de toutes ses forces. Écoutez ces paroles, Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles et les prodiges et les signes qu'il a opérés au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Donc les gens, bah oui, les gens de Jérusalem savaient qui était Jésus. Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Mais dites donc, c'était dangereux ça, d'accuser comme ça. Ils n'ont pas bougé, hein. Dieu l'a ressuscité, alors là les Sadducéens devaient être furieux, en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Et puis maintenant, versets 36, 38 et 39. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Pierre leur dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Ah, il s'est passé quelque chose. Pierre, là, il est complètement... C'est sûr que la crucifixion de Jésus, ça a dû l'affecter. Le reniement, ça a dû l'affecter. La rencontre avec Jésus, après, Pierre m'aimes-tu, ça l'a affecté. Mais là, il avait quelque chose à donner. Son cœur a changé, certes, mais en plus, il a reçu une puissance sur lui. Il a reçu, maintenant il va pouvoir donner. Et ça explique pourquoi il a pu dire à cet homme, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. » Alors ses discours, on en a vu quelques extraits, les miracles, les guérisons qui vont avoir lieu au cours de son ministère ne proviennent pas de Pierre, mais du Saint-Esprit qui habite en lui. On a vu que Pierre était un homme comme nous, mais il a reçu le pardon de Jésus, un appel de Jésus et l'Esprit de Jésus, et il a simplement obéi. C'est pas compliqué, hein? Et nous, ce matin, pour terminer, alors je me mets dedans, hein, parce que ça m'a beaucoup secoué, cette étude. Et nous, ce matin, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on peut dire... Je n'ai pas ce que vous demandez, ce que vous attendez, mais ce que j'ai, je vous le donne au nom de Jésus. Soyez guéris. La richesse matérielle, les capacités intellectuelles, les compétences humaines, face au péché, face à la maladie, face à la dépression, face à la souffrance, c'est limité, hein. Regardez les suicides des gens extrêmement riches, extrêmement instruits, des gens qui ont des postes très importants, puis on apprend qu'ils se sont suicidés. Qu'est-ce que ça apporte, toutes ces choses? C'est bien, mais qu'est-ce que ça apporte? Et comme Pierre, nous, je crois, on a reçu le pardon de nos fautes, on a pleuré sur nos péchés et nos désobéissances, on a vu ce regard bienveillant et plein d'amour de Jésus. Et si ce n'est pas le cas, c'est le moment, quand vous rentrez chez vous, priez, confessez vos péchés à Dieu. S'il faut faire un redémarrage dans la foi, faites-le. Et croisez son regard. Vous allez voir dans votre cœur. Et vous savez, il y a les yeux du cœur aussi. Croisez le regard de Jésus. Il est bienveillant. Il est rempli de pardon. Si on est sincère dans sa demande de pardon, il pardonne. Il a pardonné le reniement de Pierre, c'était pas rien, hein. Nous, on a vu le regard bienveillant et plein d'amour de Jésus. Nous savons, comme Pierre, qu'il a sacrifié sa vie pour nous purifier du péché, de la désobéissance. Nous savons qu'il est ressuscité. Bien sûr, nous, on ne l'a pas vu de nos yeux. Pierre avait plus de chance que nous de ce côté-là, mais enfin, il a eu d'autres problèmes. Mais on sait qu'il est ressuscité. De toute façon, vous savez, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, psychologiquement, c'est évident quand on lit le texte. Tous ces témoins qu'il y a eu depuis 2000 ans. Nous avons répondu à l'appel de Jésus d'être des témoins, d'être le sel, comme Jésus l'a demandé, la lumière, le phare, des ambassadeurs de Christ. Ou bien alors, et je me pose la question, est-ce que c'est loin derrière nous? Est-ce que c'est trop loin derrière nous? Et je pense honnêtement qu'il faut demander à Dieu de renouveler notre foi et notre zèle. Vous savez, il y a des moments, ça a été toujours comme ça dans le pays d'Israël. Hein. Au moment des juges, ça se voyait encore plus. Vous savez, oh, ils avaient des victoires, ils étaient heureux, ils faisaient confiance à Dieu. Puis petit à petit, 40 ans plus tard, tout était à recommencer. 40 ans souvent. Et demandons à Dieu de nous renouveler. Je crois qu'il y a des moments où il faut le faire. Si on veut pouvoir dire, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Et j'aurais terminé sur cette parabole, c'était encore ma classe, elle était fertile cette classe de CE2 ou CM1. Et il y a un petit garçon qui écoutait attentivement, j'avais travaillé sur la parabole des terrains. Pas facile, hein, mais ils ont bien compris. Et ils sont intelligents, les enfants. Et il y a un des petits garçons qui, après la leçon, me dit « Oh, madame, moi j'ai peur que quand je serai grand, je sois le terrain où ça a bien poussé, mais où les ronces et les broussailles ont pris le dessus, toutes les préoccupations, les soucis de la vie. » Il avait bien compris. J'ai peur que ça soit comme ça dans ma vie. Je crains que ce soit ce qui est arrivé, mais c'est pas grave, c'est pas perdu. Je pense souvent à lui. Il s'appelait Pierre, d'ailleurs. Et je me demande si parfois, nous, chrétiens aussi, on a beau être évangélique et connaître le Seigneur, est-ce qu'il n'y a pas des moments, on n'arrive pas à des moments dans notre vie où ça a bien poussé, ça a commencé à produire, puis bon, les ronces ont poussé dessus. Et vous savez, les ronces, c'est terrible, hein, comment ça pousse bien. Même pendant la sécheresse, les ronces dans mon jardin sont solides. Les orties, même pendant la sécheresse. Il faut encore plus de graines, d'ailleurs. Et finalement, les soucis de la vie, les préoccupations, ça commence à tout envahir. Est-ce qu'on a... Enfin, moi, je pense que ça nous arrive. Les soucis, les préoccupations de la vie, est-ce qu'elles ont étouffé notre foi? C'est la question que je me pose. J'ai un peu mal au cœur parfois de voir l'église à laquelle j'appartenais, où j'ai vu des guérisons, où j'ai vu des miracles. Ou ben, avec le temps, voilà, 40, 50, 60 ans, la foi a bien diminué. Hein. Et je me dis, ben, nous aussi, hein, notre foi, où est-ce qu'elle est, notre foi? Est-ce qu'on est prêt à aller dire à quelqu'un, je vais prier pour toi au nom de Jésus, tu vas être guéri, etc. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, est-ce qu'il ne faut pas revenir au pied de la croix, où Jésus est mort en prenant sur lui nos péchés, notre culpabilité? Est-ce qu'il ne faut pas revenir là où il nous a pardonné, ce qui nous permet aussi de pardonner à ceux qui nous ont reniés, trahis, calomniés, abandonnés? Revenir à celui qui a vaincu la mort et qui nous accueillera pour l'éternité. Il ne faut pas l'oublier, il y a l'éternité derrière. Où je serai quand je serai mort? Est-ce que je choisis d'être avec Jésus ou pas? Comme je disais toujours à mes petits élèves, Dieu ne vous obligera pas à être en sa compagnie si vous ne voulez pas de lui ici. Oh madame, ce n'est pas juste. Ce serait un comble que Dieu vous oblige à être avec lui pour l'éternité alors que vous n'avez pas voulu de lui pendant toute votre vie. Il est gentleman, il respecte votre décision. Voilà, ils n'étaient pas contents là. Ils n'étaient pas contents. Parce qu'ils voudraient bien pouvoir vivre comme ils veulent et puis aller au ciel avec Jésus quand même. C'est entre les mains de Dieu, ce genre de choses. Mais c'est lui qui nous accueillera pour l'éternité. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas revenir aux actes des apôtres, qui sont pour moi la meilleure preuve de la résurrection de Jésus, et retrouver cette assurance qu'il est à la droite de Dieu? Ça, c'est Georges qui a prêché là-dessus. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Pour vivre une vie chrétienne enthousiasmante, est-ce qu'il ne faut pas apprendre ou réapprendre à écouter Dieu? Dans la Bible, dans notre cœur, au travers des frères et sœurs. Et c'est les témoignages que j'ai entendus chez ce couple pendant les vacances. Comment Dieu a pu... Ah, je ne résiste pas, je vous donne quand même un exemple. Cette sœur s'appelle Marilyn et elle, une nuit, elle, je ne sais plus si c'est en vision ou si c'est dans un rêve ou si c'était dans son cœur. Tu dois aller chez un tel, tu prends ta voiture, tu vas demain. Oh, c'était à l'autre bout de la France, de la Bretagne à l'Ardèche, hein, il y a du trajet quand même. Il se lève le matin, il dit à son mari, écoute, je crois que Dieu m'a parlé, il faut que j'aille là-bas, chez un tel, un tel. Son mari dit, ah non, non, pas en voiture, au mois de décembre, hein. Ils sont à 1000 mètres d'altitude. Alors là, non, mais si Dieu l'a dit, je suis d'accord, mais tu prends le train. Et dans le train, elle y allait parce qu'elle savait que le monsieur était pas loin de la mort, il était... dans les derniers instants de sa vie, et elle voulait aller le voir. Elle pensait que Dieu voulait qu'elle aille le voir avant qu'il meure. Et dans le train, sur son téléphone, elle a un message. Il vient de décéder. Mais alors, Seigneur, pourquoi tu m'envoies là-bas?
Mais pourquoi ? Je comprends pas, j'ai mal entendu. »
Mais non, elle avait bien entendu. Quand elle est arrivée là-bas, elle a appris que la dame allait être toute seule. Le temps que les enfants viennent de l'étranger, elle allait passer au moins 24 heures toute seule avec son mari décédé dans la maison. Le temps que, voilà, faire les papiers, ils étaient très très âgés. Et la dame qui venait l'aider était partie dans sa famille. Donc voilà, c'était un couple de pasteurs très très âgés qu'on a connus ici. Et elle a pu soutenir cette femme, prier avec elle et l'aider pour toutes ses démarches. Dieu avait bien prévu les choses. Est-ce qu'on peut écouter Dieu comme ça? Est-ce qu'on peut revenir à ça? Et alors, on a une vie chrétienne enthousiasmante. Il faut réapprendre à écouter Dieu. Apprendre ou réapprendre à prier ensemble, comme Pierre et les autres disciples. Et là, je voudrais terminer sur ce texte de la sortie de prison. Ils ont été emprisonnés une journée, je crois. Parce qu'ils avaient guéri un malade, vous vous rendez compte, c'est le comble. Et acte 4, 29, 30, 31. Et voilà la prière en sortant de prison. C'était pas... Moi, franchement, j'aurais rouspété. « Oh Seigneur, pourquoi t'as permis ça ?» etc. Ça, c'est moi. Mais Pierre, il dit « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. » Parce qu'il les avait menacés de continuer à prêcher l'évangile. « Vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. » En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ah ! Est-ce que ça vous ferait plaisir qu'on revienne à ça ? Est-ce qu'on aimerait revenir à ça et avoir des réunions de prière comme ça ? Ah oui, on aimerait, hein ? Non, 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 ça va. Que ça tremble dans nos cœurs, pas le bâtiment, effectivement, ça sera embêtant, surtout qu'on est au sous-sol, pas que ça bouge trop. Mais, plaisanterie mise à part, est-ce qu'on aimerait retrouver des réunions de prière comme ça? Et je crois qu'on peut. Est-ce que Dieu a changé? La Bible dit que non. Il n'y a chez lui ni variation, ni ombre, ni changement, ni ombre de variation. Est-ce que Jésus a changé? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, il y a quelqu'un qui a changé dans l'histoire. Est-ce que ce n'est pas nous? Est-ce que ce n'est pas nous? Est-ce que notre foi a pris un toboggan dans le mauvais sens? Est-ce que on est tellement préoccupé par tout un tas d'autres choses? Regardez cette prière extraordinaire. Ils ont été menacés. Ils ont été battus quand même en passant. Ça ne devait pas être tendre. Hein. Et malgré ça, ils disent « Donne-nous d'annoncer ta parole avec assurance. » Et fais des miracles, des prodiges pour qu'ils voient. Moi, j'ai envie de revoir des miracles. Dans ma famille, on en a vécu 4. Je sais que Dieu n'a pas changé. Dans mon église, on en a vu beaucoup. Dans les années 50, 40, 50. Encore un peu en 60, mais bon. Est-ce qu'il ne faut pas revenir à ce type de prière? Seigneur, on veut pouvoir dire aux gens, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Le Saint-Esprit n'a pas changé non plus. Est-ce qu'on est prêt à demander à Dieu une nouvelle visitation du Saint-Esprit? Un renouvellement de ce baptême pour que Jésus, au travers de nous, puisse bénir, sauver et guérir tous ceux qui nous entourent. Croyez-moi, la vie à l'époque n'était pas plus facile que maintenant. La force d'occupation romaine n'était pas triste. Il n'y avait pas de sécurité, il n'y avait rien. Mais ils ont fait un travail extraordinaire. Et si aujourd'hui, on peut bénéficier des valeurs du christianisme, encore un petit peu dans notre société. C'est parce qu'il y a des gens qui ont donné leur vie pour ça. Parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et si vous êtes d'accord, on va prier. Que Dieu nous remplisse de nouveau de son esprit. Seigneur, nous sommes émerveillés par cette histoire de Pierre. Parce qu'il était capable de dire, à cause du cheminement qu'il a fait avec toi. Et Seigneur, aujourd'hui, on voudrait revenir vers toi et te dire, Seigneur, remplis-nous de nouveau de ton esprit, redonne-nous la foi et qu'on puisse répondre aux besoins des gens qui sont autour de nous de la même manière, qu'il y ait des miracles, des guérisons. Bien sûr, aujourd'hui, je pense à Evelyne, mais il y en a d'autres parmi nous, Ghislaine, etc., Ruben. Nous voudrions, Seigneur, les voir guérir parce que tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. C'est nous qui avons changé, Seigneur. Pardon. Renouvelle notre foi et remplis-nous de ton esprit dans les jours qui viennent, Seigneur. Que vraiment ta puissance revienne dans ton Église. Que notre cœur s'ouvre et qu'on puisse, comme Pierre, annoncer ta parole avec assurance. Amen.